Il est 8h14 et c'est le temps d'aller à Pékin. Voilà, Frédéric Daigle, bonjour.
Oui, mais on va aller à Pékin juste en février, Louis.
Là, c'est Pékin?
Oui.
Oui, mais c'est à côté.
Oui. Oui, bon, si on veut, là.
Excuse-moi, mon Dieu, j'étais en avance, moi, là. Mais t'as raison. Alors, allons à Tokyo, plutôt. Oui. Tu prendras ton billet pour aller à Pékin tout de suite après.
Oui, bon. Surtout que c'est facile
je vais
de
circuler dans
ce coin-là.
Comment tu dis, François?
Surtout que c'est facile.
Je vais prendre une navette olympique, je devrais arriver à temps pour les Jeux.
Oui, ah oui. C'est ça, exactement. Frédéric, Penny Oleksiak devient l'athlète canadienne, femme ou homme, la plus médaillée de l'histoire des Jeux d'été avec 6 médailles. Elle a rejoint Cindy Klassen et Clara Hughes. Puis c'est pas fini. Elle n'a que 21 ans. Il reste encore quelques courses à nager à Tokyo.
Ben oui, alors médaille de bronze ce matin aux 200 mètres medley, mais style libre. Et puis, il lui reste encore 2, peut-être 3 épreuves. Là. Je sais que il y a 2 relais. Elle fait un 100 mètres. Là. Bon, je pourrais pas me relire, ça va bien. Elle a une course...
T'as dû écrire ça en chinois.
Oui, c'est ça.
Oui. Elle a une course individuelle, puis elle a 1 au moins et peut-être 2 relais là, qui s'en viennent. Alors, elle pourrait quitter Tokyo avec 9 médailles olympiques. Alors c'est fabuleux, c'est évidemment du jamais vu là, mais quelle performance. Et tu sais, à 21 ans là, on peut penser qu'il lui reste encore Paris dans 3 ans,
oui.
Puis possiblement Los Angeles dans 7 ans. Là, on verra pour 2032 pour Brisbane, mais quand même, c'est pas une vieille athlète là.
Mais je sais pas si tu as lu un peu sur l'histoire, sur son témoignage après justement les Olympiques de Rio où elle avait brillé là, puis on l'avait vraiment placée comme étant une vedette puis tout ça, puis elle était pas prête à ça. Non. Elle expliquait qu'elle était vraiment pas prête à ça, puis elle a eu une période de dépression, de la même été boulimique à un moment donné. Pendant les années qui ont suivi, parce que c'était beaucoup de pression pour une jeune femme qui... Une adolescente, en fait.
Elle avait 16 ans.
Elle avait 16 ans.
C'est ça. Alors, je peux comprendre. Et puis, son cas n'est pas sans rappeler. Puis, tu sais, le lien est facile à faire avec ce que Simone Biles vit chez l'équipe américaine de gymnastique aussi, qui a gagné à peu près tout ce qu'il y avait à gagner à Rio en gymnastique et qui s'amenait au jeu. On lui avait presque envoyé toutes les médailles d'or par la poste avant de s'en venir, tellement personne n'était proche. Puis là, oups, soudainement... mentalement, c'est difficile. Elle ressent beaucoup de pression. Et puis, elle a perdu confiance en ses mouvements. Et c'est parce qu'à un moment donné, quand tu fais 2 ou 3 vrilles sur une poutre, puis que t'as pas confiance, parce que là, ça peut entraîner de blessures sérieuses, voire la mort, là. Alors, elle s'est retirée hier. Elle a préféré laisser ses coéquipières américaines travailler sans elle pour le concours général.
Okay. Donc, elle a abandonné les Jeux.
Les Américaines sont arrivées deuxième. Ben là, elle a abandonné hier et puis elle a décidé de pas se présenter au concours général individuel. Alors, au concours individuel, ça veut dire qu'elle était qualifiée pour les 4 agrès et puis finalement, elle décide qu'elle a besoin de temps pour se remettre mentalement. Alors, elle va être là pour encourager ses coéquipières. Elle est remplacée par la fille qui est arrivée 9e. Là, chaque pays pouvait juste envoyer 2 athlètes aux 4 agrès, puis là, celle qui est arrivée 9e va prendre sa place. Alors, imaginez, là, elle est aux Jeux olympiques, elle est la grande favorite là, par une marge incroyable, et puis c'est tellement fort qu'elle se retire, finalement, probablement de son rêve là, de répéter, de défendre son titre olympique. Et puis, alors, c'est montré à quel point les problèmes de santé mentale, c'est gros, c'est lourd,
c'est énorme,
et ça peut frapper n'importe qui, n'importe quand.
Ouais. Bon, j'aimerais ça qu'on revienne sur la belle médaille d'or de Maude Charron hier. De voir son visage quand elle gagne la médaille d'or, ça valait 1000$ là. Elle fond en larmes littéralement pendant qu'elle a encore le poids au bout des bras parce qu'elle comprend qu'elle vient de gagner,
qu'elle est la meilleure olympique.
C'est incroyable. Et puis, j'ai beaucoup aimé, c'est mon collègue Marc Delbès qui a couvert la compétition pour nous. J'ai beaucoup aimé quand elle dit dans ses entrevues après la compétition qu'elle a eu une pensée pour Christine Girard.
Oui.
Les gens qui se rappellent peut-être du nom, mais qui comprennent pas exactement c'est quoi. Christine Girard a terminé sur la troisième marche du podium aux Jeux de Londres. Mm. Puis elle a reçu une médaille, elle a littéralement reçu une médaille d'or par la poste parce que les deux en avant d'elle ont été trouvés coupables de dopage presque 8 ans plus tard, si mon souvenir est bon.
Ouais.
Alors, c'est, et elle disait, j'aurais aimé ça qu'elle puisse vivre ça quand l'hymne national du Canada a joué au Forum international de Tokyo. J'en avais des frissons sur tout le corps. Elle était très émue encore sur le podium. Alors, c'est une belle pensée, justement, parce que forcément, c'est un peu Christine Gérard, quelqu'un qui a servi d'inspiration pour Maude Charron.
Mm-hmm.
Alors, de ramener son nom dans l'actualité comme ça, j'ai trouvé que c'était un beau geste de sa part. Elle aurait pu prendre tout le spotlight, là, si vous me prêtez l'expression, mais quand même, elle tenait à partager ça avec Christine Gérard. Mais quelle belle médaille, effectivement, encore une fois, pour le Canada.
Exactement.
Et quelle belle histoire également. On en a glissé un mot, Louis, hier, rapidement, mais cette fille-là, au cours de la pandémie, s'entraînait dans le garage de son père. Chez elle.
Exact, parce qu'elle vient du bas du fleuve.
Oui, plusieurs matins avec sa tuque sur la tête parce qu'il faisait trop froid. Mais elle a jamais, mais jamais abandonné. Finalement, elle a remporté la médaille d'or. C'est une très, très belle histoire.
C'est un peu le message qu'elle lançait hier aussi là, en entrevue. Elle disait, j'espère que mon histoire va montrer aux gens qu'il ne faut pas abandonner, qu'il ne faut pas lâcher, parce qu'il y a toujours une solution. Alors, c'est une très belle histoire, effectivement. Belle médaille.
Bon, aujourd'hui, tu es allé voir de la boxe.
Oui, on avait des femmes. Alors, Caroline Vert, chez les 57 kilos, qui était en quart de finale aujourd'hui, ça a été un combat difficile contre Irma Testa, l'Italienne. Testa, c'est pas la dernière venue, là. Elle avait éliminé la favorite de la compétition, Michaela. Ah, j'oublie son nom. L'Irlandaise, en tout cas, qui était classée numéro 1, je m'excuse. Et puis, c'est un adversaire difficile. Caroline Vert, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une petite femme d'environ 5 pieds 2, 5 pieds 4. Elle affrontait quelqu'un qui devait avoir 6 pouces de portée de plus qu'elle. La stratégie de Caroline dans un combat comme ça, c'est de rentrer à l'intérieur, rentrer dans la bulle de son adversaire pour tenter de marquer des points au corps, que la garde baisse, puis pouvoir aller remarquer des points à la tête, au visage ensuite. Ça n'a pas fonctionné. L'Italienne savait bien quel jeu Caroline Vert voulait jouer. Et puis, elle l'a tenu à distance de bras. Elle a jabé. Elle a utilisé les jabs tout le long. Et puis, dès que Caroline essayait d'entrer, l'autre l'accueillait en combinaison.
Ouais.
Ça a pris peut-être 2 rounds et demi sur 3 avant que Caroline trouve finalement une solution qui lui permette de marquer quelques points. Elle a enlevé le 3e round, mais c'était déjà trop tard. Après 2 rounds, sa seule chance de gagner, c'était de passer le KO à l'Italienne. Et puis, en boxe olympique, des KO, on n'en voit presque jamais.
Ouais. Alors, ça va être plus
tranquille. La journée a un petit peu mieux été.
Ouais.
Oui, excuse-moi, Louis.
Non, j'allais dire, ça va être plus tranquille au niveau des possibilités de médailles aujourd'hui, de ce que j'ai compris. Hein? Il y a moins de finales ou...
En tout cas, pour impliquer les Canadiens. Mais pour ton information, Frédéric, je sais que tu as couvert le tennis un peu plus tôt cette semaine. Félix Auger-Aliassime et Gabriela Dabrowski ont perdu leur match de premier tour en double mixte. Ils se sont inclinés devant le duo grec formé de Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari en 71 minutes 3-6 et 4-6.
Donc c'est fini pour
eux. Oui, ça n'a pas été une bonne semaine au tennis pour les Canadiens.
Ouais.
On attendait beaucoup plus. On attendait plus en double avec Dabrowski et sa partenaire chez les dames, Sharon Fishman et Félix en simple. On le voyait.
On le voyait
beaucoup plus loin que le premier tour. Là, on avait beaucoup espoir parce que ces deux, Gabriela Dabrowski, c'est une des meilleures joueuses de double au monde. Mm. Félix est classé dans le top 15 mondial. Ils affrontaient les deuxièmes têtes de série aujourd'hui, les Grecs, mais ça a été là, c'est une ballonne dégonflée le tennis cette semaine. Ouais. Là, c'est plate de dire ça comme ça, mais ça a été ça.
Hey Frédéric, merci beaucoup, puis on se reparle demain matin.
Absolument, ça me fait plaisir. Bonne journée à vous.
Ouais, bonne nuit.
Qui est journaliste sportif, oui, bonne nuit. Il est quelle heure chez vous, là, encore?
Là, présentement, il est 21h15, 20,
ouais.
Dans
21h15, ce jour-là. Oui, 21h23. OK, ouais. Puis à Pékin, non, c'est pas vrai.
À Pékin, là, je pense que c'est 1h ou 2, une pointe. Là, faudrait, je vais te dire ça demain.
C'est bon, salut Frédéric.
Merci, bye-bye.